Réplique en compagnie de Milan Kundera avec Florence Noiville et Benoît Dutertre. C'est toujours un bonheur de se replonger dans l'œuvre inépuisable de Milan Kundera. L'occasion m'en a été donnée par le livre délicat et subtil que vient de lui consacrer Florence Noiville, qui est critique littéraire au Monde. Je l'ai invité aujourd'hui avec l'écrivain Benoît Dutertre, ami de Kundera, pour parler de l'homme et de l'œuvre. Et d'abord, votre titre énigmatique, Florence Noiville. Milan Kundera, écrire, quelle drôle d'idée. D'où vient cette phrase ?
Eh bien, elle vient de lui, justement, comme vous l'avez remarqué, c'est un titre entre guillemets, donc c'est une phrase qu'il a prononcée un jour où je prenais des notes chez lui, en prévision de ce livre. Il m'a regardé et il m'a demandé « qu'est-ce que tu fais ?» Alors j'étais un peu déboussolée, j'ai levé mon stylo et j'ai dit « eh bien, j'écris ». Alors là, il a levé les yeux au ciel et un éclair de malice est passé dans son regard. Et après un petit silence, il a dit « écrire ». Quelle drôle d'idée. Alors évidemment, ça a fait rire tous ceux qui étaient là. Mais à y repenser ensuite, je me suis dit que cette phrase s'appliquait assez bien à, sinon à son œuvre, du moins à son parcours. Alors, la première raison, c'est que Milan Kundera, c'est un homme extrêmement doué. Il y a eu un moment dans sa vie où il composait des vers, où il dessinait, où il peignait, où il écrivait, etc. Et surtout, où il aurait pu être pianiste. Ça, je pense qu'on en reparlera avec Benoît Dutertre. Mais la musique comptait extrêmement dans sa vie, puisque son père était lui-même pianiste. Donc, il était un peu programmé pour, d'une certaine façon, pour être pianiste. Et dans les années 50, en Tchécoslovaquie, en plein régime autoritaire, il choisit les mots et non pas les notes. Écrire, quelle drôle d'idée, parce qu'en effet, ça va lui coûter très cher. Ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui. Et puis une troisième raison, c'est qu'il aura passé sa vie à parfaire, à analyser, à disséquer l'art du roman, dans une époque où, oui, on peut se dire, quelle drôle d'idée, l'art du roman n'est pas forcément la préoccupation première de l'époque que nous traversons. Et enfin, j'ai le droit d'en mettre une quatrième raison.
Et bien sûr.
C'est qu'il y avait l'adjectif drôle, et que j'aimais bien qu'il y ait l'adjectif drôle, parce que ça faisait ressortir le côté espiègle et plein d'humour de Kundera, que l'on voit dans le dessin, parce que nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais c'est un dessin de Kundera qui est en couverture, et espiègle à souhait, puisque c'est un homme qui s'arrache un œil, qui le décentre de telle sorte que l'œil est un peu en apesanteur et peut voir à 360 degrés. Donc l'écrivain voit tout et l'écrivain sourit. Ça me paraissait une assez jolie métaphore du travail de l'écrivain.
Oui, alors simplement rappelons le contexte où il prononce cette phrase. Il vous pose la question en tchèque d'abord, ensuite le français revient. Et écrire, quelle drôle d'idée. Il y a de la malice dans cette phrase, bien sûr, la malice kundérienne, mais il y a aussi le travail de l'oubli, puisque nous en parlerons à loisir. Kundera vit une vieillesse difficile, et on se pose la question de savoir s'il se souvient lui-même qu'il a été écrivain.
C'est aussi tragique de cette phrase.
Voilà, c'est le tragique de cette
phrase. Absolument.
C'est le tragique de cette phrase. Alors justement, Benoît Dutertre, vous connaissez bien Kundera, vous allez souvent chez eux. Nous savons tous les trois comment il va ou ne va pas. Qu'avez-vous pensé de cette révélation dans le livre de Florence Noiville ? Est-ce que ça vous a gêné, ça vous a choqué que, justement, cela, maintenant, soit mis sur la place publique ? Benoît Dutertre.
Alors, d'abord, c'est vrai qu'il faut rappeler que Milan Kundera a toujours tenu des propos extrêmement virulent contre l'idée de la biographie, de la biographisation de son œuvre ou de sa vie, au point d'ailleurs, on le sait, vous savez que dans l'édition de la Pléiade, il a refusé toute indication de note d'autobiographie qui irait au-delà de ce qu'il souhaite laisser, c'est-à-dire son œuvre d'écrivain. Il l'a dit, il l'a redit, il l'a redit. Par ailleurs, il faut dire aussi que les choses ont changé ces dernières années avec sa maladie, sa fatigue, la présence très forte de sa femme Vera auprès de lui, que Vera, qui, avec discrétion, mais déjà dans des revues tchèques ou dans quelques articles, avait laissé un petit peu filtrer le fait que Milan était vieux, malade, commençait à perdre la mémoire, et que c'était, ça ne pouvait pas être caché indéfiniment, puisque plus personne ne le voyait, de toute façon, en ville, à Paris, où il avait beau être très discret, il était quand même assez présent. Mais ce que je voudrais dire, justement, c'est que donc, tout ça aurait dû peut-être me faire penser que ça pouvait être une trahison, mais j'ai trouvé le livre de Florence Maville, je dois dire, extrêmement délicat. Raffiné, délicat, c'est-à-dire que, et pudique même, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu dans ce livre entre ce que Milan nous dit quand même de lui-même au fil de ses romans, qui sont des œuvres de fiction, il y tient, mais dans lesquelles malgré tout il est très présent d'une certaine façon, les lieux, les personnages qui ont compté dans sa vie, qu'elle est allée rencontrer, etc., les échanges qu'elle a eus avec lui et qu'il a bien voulu lui donner d'une certaine façon, parce que c'est pas quelqu'un qui se cache avec ses amis, c'est quelqu'un de très, très naturel, très présent. Donc elle a tissé tout ça d'une façon que je trouve extraordinairement réussie, par petits chapitres, par petits points de vue. On n'a jamais l'impression d'être dans une biographie de révélation, mais plutôt dans un parcours à la limite de l'homme et de l'œuvre.
Alors, quand même, je vais insister, Florence Noiville, parce que, en effet, comme l'a dit Benoît Dutertre, la biographie pour Kundera est un poison. Et vous le citez d'ailleurs. Au moment où Kafka attire plus l'attention que Joseph K., le processus de la mort posthume de Kafka est annoncé. Il a tout fait pour semer ses biographes. Vera Kundera et lui ont déchiré et brûlé leur correspondance. Et d'ailleurs, quand je l'ai appris, j'ai dit à Vera que c'était un geste terrible. Ils auraient pu au moins la garder pour eux. Non, ils ne voulaient pas qu'elle tombe en de mauvaises mains. Et pour eux, toute curiosité relève de l'indiscrétion, dont toute main est mauvaise. Et je citerai, à l'appui de Kundera, le poète Winston Oden, le chroniqueur mondain, je peux lui pardonner, mais pas les biographes qui soutiennent que c'est par amour de la culture. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Benoît Dutertre sur votre livre, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui vous a poussé quand même à commettre cette indiscrétion? Nous savons maintenant que Milan Kundera, en effet, perd la mémoire, et vous dites même qu'il n'y a plus que deux mots pour lui, deux mots qu'il prononce, Brno, sa ville natale, et Maminka, c'est ma petite maman. Alors, voilà.
En effet, si la maladie est présente, elle l'est, mais elle n'est pas non plus omniprésente. J'ai essayé de le faire avec le plus de pudeur et de respect possible, mais ce qui me paraissait intéressant, dans la mesure où effectivement, Benoît Dutertre l'a dit, cette maladie, ça commençait à s'éventer et c'était un secret de Polichinelle. Et deux, j'ai eu une sorte d'autorisation de Vera de le faire et je ne l'aurais pas fait si elle ne m'avait pas donné cette autorisation. Mais il y avait un troisième élément qui me frappait beaucoup et probablement je n'aurais pas mis cette maladie en avant si ça n'avait pas été le cas, c'est que l'oubli et le silence sont en fait les deux terribles mots qui l'assaillent. Eh bien, l'oubli et le silence sont deux thèmes absolument centraux et omniprésents dans toute l'œuvre. Et alors là, je me suis dit, à chaque fois ça me revenait, j'essayais de me retenir, mais je me disais, mais non, parce que la réalité vient ironiquement, dans une ironie cruelle, illustrer quelque chose de son œuvre. Et donc, d'une certaine façon, ça n'était plus purement biographique, mais c'était une sorte d'ironie qui venait parachever l'ironie kundérienne qu'on connaît bien.
En effet, vous avez raison, la question de l'oubli est centrale, est récurrente. C'est évidemment le livre du rire et de l'oubli, oui. Mais c'est aussi la plaisanterie. Oui. Phrase terrible, tout sera oublié et rien ne sera réparé. Le rôle de la réparation et par la vengeance et par le pardon sera tenu par l'oubli. Personne ne réparera les torts commis, mais tous les torts seront oubliés. C'est la plaisanterie, c'est l'inverse du conte de Monte Cristo. Une vengeance veut se faire, et le héros Ludwig ne se venge pas parce que l'objet de sa haine a complètement changé. Donc je ne raconte pas l'histoire, mais oui, vous avez raison, l'oubli est omniprésent. Et je dirais une autre chose en faveur de ce choix qui a été le vôtre de commettre une sorte d'indiscrétion, c'est que vous n'êtes pas du tout dans la situation des biographes dénoncés par Kundera, notamment dans Une rencontre. Il y a un chapitre « Que restera-t-il de toi, Bertolt ?», un chapitre sur Brecht. Il dit « L'Europe entre dans l'époque des procureurs, et à l'époque des procureurs, qu'est-ce que cela veut dire la vie ?» Une longue suite d'événements destinés à dissimuler sous sa surface trompeuse la faute. Donc le biographe, c'est celui qui cherche la faute. Et Brecht, en plus, son biographe, 800 pages, dit qu'il dégageait une mauvaise odeur d'après une de ses assistantes qui fait cette révélation 30 ans après la mort de Brecht. Donc, on peut lire toute une suite, enfin presque toutes les biographies dans ce sens. Il faut ramener l'auteur, le génie, au niveau commun et peut-être même un peu plus bas. Et évidemment, c'est pas du tout ce que vous faites. J'ajoute qu'on apprend dans votre livre que Kundera a été marié avec Olga Haas, la fille d'un musicien, Pavel Haas, et lequel a donné des cours à Kundera, dont le père était un grand pianiste, élève de Janáček. Donc Kundera était l'élève de Pavel Haas. Pavel Haas a été enfermé au camp de Térézine. Il y est mort et Kundera a épousé Olga Haas. Le mariage n'a pas duré longtemps. Olga Haas, d'ailleurs, a refusé au biographe toute forme de confidence jusqu'à sa mort. Mais ça m'a fait penser à ce que vous avez écrit sur Kundera, c'est-à-dire le rôle de la musique. Elle était chanteuse d'opérette, d'ailleurs, d'après ce que vous dites, hein, Olga Haas. Le rôle de la musique dans la vie et dans l'œuvre et dans la pensée d'une Hélène Kundera.
Alors, Benoît Duterte. Évidemment, il faut dire d'ailleurs que la fille de Pavel Haas, qui a été donc la brève épouse de Milan, est morte il n'y a pas très très longtemps. Elle était restée en contact très amical avec Vera, qui elle a accompagné toute la vie de Milan.
Ah oui, elle se téléphonait.
Elle se téléphonait très, très régulièrement. Mais Pavel Haas est un de ces compositeurs extraordinairement prometteurs de la jeune génération tchèque qui a émergé dans les années 30 et qui a été décimée effectivement de Theresienstadt à Auschwitz pour beaucoup d'entre eux. Il n'est malheureusement pas le seul. Mais lui était de Brno comme Milan. Comme Janáček et comme donc Ludwig Kundera, le père de Milan Kundera, élève de Janáček, qui dirigeait l'école de musique Janáček à Brno. Et donc, effectivement, Kundera a grandi dans ce contexte extraordinairement musical. D'ailleurs, il en parle assez souvent dans ses livres, de ses discussions avec son père sur la musique, etc. Et donc, quand il a pris ses cours avec Pavel Haas, en fait, il avait 13-14 ans, hein, parce que Pavel Haas est déporté en 43 ou 44. Il était encore vraiment tout jeune, mais ça l'a évidemment beaucoup marqué parce que c'était l'école moderne, en fait, hein, qui faisait écho à toute la jeune école de l'art moderne, de la musique moderne en France, en Allemagne, etc. Et lui-même, donc, a commencé à écrire des petites pièces pour piano que Vera a conservées. Moi, j'en ai quelques copies. J'en avais passé une à Florence, qui l'a fait jouer par un pianiste. Et Milan a écrit des petites pièces qui sont vraiment...
Vous avez essayé d'en jouer une, je crois, vous-même.
Oui, j'en ai joué plusieurs. Je les ai sur mon piano, mais c'est des pièces de tout jeune homme. Hein. Il a 14 ans, mais il est extrêmement doué. Oui. Je dirais dans une école un peu la musique moderne, Prokofiev, Schoenberg, quoi. On voit que ça aurait pu évoluer dans ce sens-là.
Et c'est aussi assez janáčekien, parce que ça ressemble à Sur un sentier broussailleux.
Avec les ruptures de Janáček également, oui. Et il aimait bien d'ailleurs parler de musique, on parlait tout le temps de musique avec lui. Mais moi, ce qui m'a fasciné, évidemment, quand j'ai rencontré Milan, qu'on est devenu amis, c'était juste l'époque où il écrivait Les Testaments trahis. Et Les Testaments trahis, c'est vraiment un livre qui est construit sur un va-et-vient continuel entre les questions que pose la musique, l'art musical, la vie des musiciens et celle de la littérature, puisque Janáček et Stravinsky sont les deux personnages avec Kafka et Cervantes qui au fond sont,
oui, d'ailleurs,
sont dans la trame de ce livre.
Hein. Stravinsky plutôt que Schoenberg, ça évidemment, il y a une grande admiration pour Schoenberg, mais Stravinsky n'était pas un homme de la rupture, voilà. Et c'est ça que cette modernité-là qu'apprécie particulièrement Kundera.
Kundera qui s'en prend aussi beaucoup à la politisation de la lecture de l'histoire de la musique faite par Adorno, qui lui justement a opposé Schoenberg le bon à Stravinsky le mauvais d'une certaine façon. Et Milan Kundera dans ce livre renverse beaucoup de lieux communs sur l'art moderne, c'est ce qu'il fait tout au long des pages et qui moi m'avait tellement ébloui parce qu'on était vraiment très loin de la doxa sur l'art contemporain telle que je la connaissais en France, si vous voulez.
Et qui vous a fait souffrir.
Et qui m'a un peu fait souffrir quelquefois.
Oui, mais alors... Un mot, je m'arrête sur Térésine, parce que Kundera a écrit sur Térésine des choses absolument extraordinaires. Donc, Térésinstadt en allemand, c'était une ville transformée en ghetto que les nazis ont utilisée comme une vitrine où ils laissaient vivre les détenus d'une façon relativement civilisée pour pouvoir les exposer aux nigauds de la Croix-Rouge internationale. Et il dit, les détenus se sont servis de cette liberté mensongère, en quelque sorte, pour mener à bien leurs activités éducatives ou artistiques. Il parle de Pavel Haas, élève de Janáček, de Hans Krass, de Gideon Klein, d'Anserle, devenu après-guerre l'un des plus grands chefs d'orchestre d'Europe. Et il y a cette phrase que je trouve absolument éblouissante. Que représentait l'art pour eux ? La façon de tenir pleinement déployé l'éventail des sentiments et des réflexions afin que la vie ne fût pas réduite à la seule dimension de l'horreur. Ils vivaient dans un monde atrocement binaire et leur résistance, c'était justement de déployer l'éventail des sentiments. Et c'est aussi quand même ce que la mission constante contre toutes les formes de réduction que Milan Kundera assigne à l'art musical ou littéraire, Florence Neuville.
Oui, on le voit d'ailleurs, Pavel Haas, dans un film, cet horrible film qui s'appelle...
Les films de propagande qui s'appellent
Hitler donne une ville aux Juifs. C'est épouvantable. On a l'impression qu'effectivement, il joue des pièces de théâtre et il joue du piano et tout va bien. Et en effet, les nigauds de la Croix-Rouge, si on peut dire, je cite, n'avaient rien vu à l'époque ou rien voulu voir. On ne sait pas. En tout cas, Benoît Dutertre m'a passé très gentiment cette partition qui figure dans le livre, comme figure d'ailleurs le premier poème de Milan Kundera qu'il a dédié à Pavel Haas. Il a commencé comme poète. Et figure aussi des petits morceaux de carnet de voyage, des souvenirs personnels, une blague juive, une phrase de lui que j'adore qui est « L'homme pense, Dieu rit ». Beaucoup de photos, beaucoup de dessins, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, on a dit que ça n'était pas une biographie. En effet, ça n'en est pas une, car je ne voulais surtout pas en faire. Mais qu'est-ce que c'est, du coup ? C'est plutôt une sorte de manteau d'Arlequin avec des petits morceaux d'un peu de tout, cousus ensemble, en espérant qu'à la fin, ça fasse une jolie tapisserie et qu'il y ait un motif dans le tapis, comme chez Jeffs, et que ça finisse par dessiner, en effet, un profil qui ne soit pas exactement celui du Kundera, très intellectuel et très cérébral, que souvent on se représente et qui peut être intimide un petit peu les jeunes générations. Et moi, je voulais dire non. Il y a cet éblouissement incroyable à lire Kundera. Allez-y, lisez-le. Et ce livre est un peu une introduction à l'œuvre d'essayiste et de romancier.
Alors justement, la question que je vais vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a de profondément original et d'unique dans l'œuvre de Kundera ? Comment définiriez-vous sa voix de romancier à côté des autres génies de la littérature ? Benoît Dutertre.
Kundera parle souvent des petites nations, etc., et soulève ce paradoxe que quand on vit dans des petits pays, on a accès d'une certaine façon plus facilement à l'art et à la littérature des grands pays voisins, parce que voilà, c'est une culture plus internationale. En France, au contraire, moi j'ai grandi dans une vision, je dirais, extrêmement étriquée de la littérature comme un phénomène purement français. Vous savez, dans nos manuels du XXe siècle à l'école, la littérature moderne, c'était à peu près le nouveau roman et ses suites. Et il n'y avait rien d'autre. On n'imaginait pas autre chose. Et je suis devenu jeune écrivain, comme ça, en essayant de me dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire après Beckett, Rob Grillet et Marguerite Duras. On n'imaginait pas autre chose. Et il faut quand même voir le souffle d'air frais qu'a pu représenter pour des jeunes écrivains comme moi, la découverte de Kundera, qui tout d'un coup nous faisait échapper à cette chose très très française qui est que la littérature moderne, ce ne serait que l'invention d'une langue, la recherche d'une écriture, etc. Et qui tout à coup nous révélait que le roman, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, qui n'est pas une recherche d'écriture, mais un jeu avec des personnages, avec des situations, avec des décors, avec des idées, etc. Et cet art de la grande composition romanesque, moi, c'est quelque chose qui m'a évidemment complètement éclairé, inspiré de façon merveveilleuse à l'époque où je l'ai lu d'ailleurs relativement tard, j'ai commencé par je crois l'Immortalité à l'époque où je l'ai connu à peu près, et je me rappelle encore au début de l'Immortalité cette scène extraordinaire de cette femme dans la rue avec des bruits partout, des gens qui manifestent leur ego par la puissance du son. C'était une scène tellement de la vie contemporaine, tellement bien montrée, et qui finalement était un petit peu pour moi jusqu'alors absente de la littérature française, qui était toujours comme un peu enfermée dans un atelier d'écriture. Et moi, voilà, il m'a apporté ce regard sur le monde, ce sens du paradoxe, cet amour de la légèreté aussi, qui n'était pas dans les qualités intellectuelles forcément les plus prisées autour de moi.
Florence Noiville, même question.
Même question. Benoît Duteurtre a déjà dit beaucoup et très bien. Il a prononcé l'adjectif étriqué. Ouais. Tout à coup, j'ai eu, moi aussi, dans ma jeunesse lointaine, puisque c'était en classe préparatoire, une espèce d'éblouissement qui, tout à coup, faisait qu'on sortait de quelque chose d'étriqué. Je lisais de la littérature, je lisais l'art du roman. Et tout à coup, la littérature, voilà que ça résonnait avec le cinéma, avec le théâtre, avec la musique, avec la peinture. Et que ça se jouait des frontières, comme ça, avec une espèce de légèreté, d'intelligence à vous donner le tournis, mais aussi de grande, grande, grande limpidité.
Et ah oui, la limpidité, c'est très important.
Et alors, j'ai toujours, quand je pense à Kundera, j'ai toujours en tête cette phrase de Gide, il parle de bassins qui sont remplis d'eau. Et il dit, l'eau est tellement claire qu'il faut se pencher longuement au-dessus pour en apercevoir la profondeur. Je trouve que ça marche très très bien avec Kundera. Il faut se pencher longuement pour voir à quel point ça résonne et ça... Bon. Alors ça, c'était le premier éblouissement. La deuxième chose, c'est que il parle beaucoup de la sagesse du roman. Il tient beaucoup au roman, on l'a dit tout à l'heure, à ce genre qui pour lui est plus qu'un genre. C'est une source de sagesse parce qu'on y puise la sagesse de l'incertitude. On entend un cœur de personnages qui ont tous des visions contradictoires de la vie, complexes, pleines de paradoxes, etc. Et cela, nous dit-il, ça a quelque chose à voir avec la tolérance. Vargas Llosa dit le roman, c'est la démocratie. Lui, il ne va pas jusque-là, mais il dit la sagesse de l'incertitude, c'est de dire, voilà, on a le droit de ne pas, dans ce monde, de ne pas asséner des vérités, de ne pas trancher toujours et de rester dans un... Voilà, dans une ambiguïté. Voilà,
dans une ambiguïté.
Le roman, c'est l'art de l'ambiguïté. Et puis, il va plus loin. Il dit, le roman, c'est aussi, pour moi, l'art d'aller jusqu'au fond de tous les leurres. Les leurres, c'est les fausses croyances, les légendes, les idéologies dont on aime se bercer tous. Et lui, il les enlève une à une, comme des pelures d'oignons. Et à la fin, qu'est-ce qui reste ? Alors là, je lui ai dit ça un jour, le trou, il reste rien. Mais ça n'est pas Sioran, ça n'est pas Beckett, c'est Kundera. Et alors ça veut dire qu'avec ce rien, cette insignifiance, il fait une fête. Et ça, mais c'est génial, une fois que vous avez compris ça, mais c'est libérateur.
C'est libérateur. Alors, je vais donner ma propre réponse très brièvement et un peu dans le sens de ce que vous avez dit l'un et l'autre. Je pense que nous devons à Kundera une autre idée du moderne et de l'art moderne. La modernité, c'était en effet pour nous, même quand j'étais étudiant, autrefois, en étant très très lointain, c'était la rupture avec la représentation dans la peinture comme dans la littérature. Le texte qui devenait son propre objet, si vous voulez. Et Kundera, non. Il dit, qu'est-ce qu'être moderne pour un romancier? C'est avancer par de nouvelles découvertes sur la route héritée. Donc ce n'est pas une rupture, et c'est une route héritée, et il prend en charge justement la représentation, il cite Flaubert, non pas une œuvre sur rien, mais aller dans l'âme des choses. Et pour moi, ça a été aussi extraordinairement libérateur. Ça a réconcilié le lecteur que j'étais avec l'étude littéraire elle-même, parce que l'étude littéraire me détournait du véritable plaisir de lire, et notamment de traiter le roman comme œuvre de vérité. Et autre chose, brièvement, Kundera, dans Le Rideau, dit ceci. Le roman, c'est l'art de la prose. La prose, ce mot ne signifie pas seulement un langage non versifié, il signifie aussi le caractère concret, quotidien, corporel de la vie. Dire que le roman est l'art de la prose n'est pas une lapazissade, ce mot définit le sens profond de cet art. Et vous citez un poète, Florence Noyville, qui va dans ce sens, un poète tchèque, que Kundera admire beaucoup, Nesval. Un poète qui proscrit le mot « aïe » est un peu à l'écart de l'homme. Et la prose, je termine là-dessus, j'en trouve, si vous voulez, une définition, une formulation très belle dans le livre du rire et de l'oubli, première nouvelle, les lettres perdues. Quel mot infiniment ridicule ce mot « combat ». C'était la lutte, les camarades, le combat. Ils assistaient à des réunions interminables. Ils avaient des ampoules aux fesses. Mais à l'instant où ils se levaient pour proférer des opinions extrêmes, il fallait châtier encore plus durement l'ennemi de classe, formuler telle ou telle idée en termes encore plus catégoriques. Ils avaient le sentiment de ressembler aux personnages des tableaux héroïques. Ils tombattèrent, un revolver au poing et une blessure sanglante à l'épaule, et elle, pistolet à la main, elle va de l'avant, là où lui n'a pu aller. Et nous avons, les gauchistes ont fait ça. Ils se sont enchantés de combat et oubliant la prose pour la pose. Et grâce à Kundera, j'ai retrouvé contact aussi avec la prose. Benoît Duteur.
Oui, non, je voulais simplement ajouter, vous parliez de ce que Kundera nous apporte de singulier. On a parlé au fond du contenu, de sa place de l'histoire dans la littérature, de ce qu'il raconte, mais il y a aussi, alors vraiment dans la forme, des choses qui moi m'ont énormément marqué quand je l'ai découvert. D'abord, c'est cet art, ce génie de partir d'un mot et de le creuser, de le confronter à des expériences concrètes. Ça peut être la lenteur, ça peut être la légèreté, ça peut être l'hédonisme. Et je ne connais pas tellement d'écrivains qui aient fait ça d'une telle façon à l'intérieur même de leur roman. Et ça, c'est vraiment un des moteurs de l'art de Kundera.
Et tous les quiproquos qui en découlent, pardon.
Toutes les paradoxes et contradictions. Mais alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, et qui est peut-être pour moi la plus éblouissante, c'est quand même le génie de la composition, c'est-à-dire de partir d'une histoire, d'une réflexion, d'un mot, de personnage, de souvenir, et de combiner tout ça d'une façon extraordinaire qui fait que tout finit par se rejoindre, non pas dans une apothéose, parce qu'il n'aime pas beaucoup les apothéoses, mais il y a quand même, en lisant le livre de Florence Noyville, on voit très bien qu'il a été longtemps, très jeune d'ailleurs, assistant, puis professeur à l'école de cinéma de Prague, qu'il travaillait avec ses élèves, qui avaient quasiment son âge, sur la construction des scénarios, etc. Et je ne connais pas guère de romancier qui est ce génie, je dirais pas du scénario, parce que c'est surtout pas quelqu'un qui va faire des scénarios de romans, puis écrire les romans après, mais il a ça en lui, cette merveilleuse art de la construction qui est jubilatoire, jusqu'à d'ailleurs son dernier roman, La Fête de l'insignifiance, avec tous ces personnages qui se croisent.
Avec beaucoup de variations sur les mêmes thèmes aussi.
Exactement.
Oui, des variations.
Juste pour finir, Florence Noyville parlait, oui, de tous ces arts présents dans les romans de Kundera et dans sa vie. C'est l'amour de Fellini, c'est l'amour du cinéma, c'est l'amour de la musique, etc. C'est l'amour de Picasso. Et moi, une chose qui m'a beaucoup enchanté chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui, à la fois, a toujours beaucoup insisté sur la spécificité romanesque, sur ce que le roman a d'unique, sur ce que le travail de l'écrivain a d'unique, il en parle merveilleusement dans l'art du roman, mais qui, en même temps, est porté par un amour des arts dans leur ensemble, qui, pour lui, ne forme qu'un tout. Et il y a cette espèce de dualité chez Kundera, d'une passion qui est celle de l'art, tout simplement, mais d'une réflexion qui porte sur un de ses arts, qui est le sien, qui est l'art du roman.
Ouais. Et d'ailleurs, il dit à propos du roman, ma première intuition pour un roman est toujours rythmique.
Voilà. Alors, oui, mais là aussi, c'est intéressant. Vous dites, il a été poète. Il a rompu, il n'a pas seulement cessé d'être poète, il a rompu avec la poésie. Et avec le lyrisme. La posture de Kundera est anti-lyrique. D'ailleurs, La vie est ailleurs est un livre qu'il voulait intituler L'âge lyrique. Et il s'est reproché de ne pas l'avoir fait. Et ensuite, il dit, on me l'a déconseillé, c'est dommage. Donc, et là, nous sommes devant un problème. C'est-à-dire, que va-t-il se passer? Ces poèmes existent, il les a refusés, ils ne font pas partie de son œuvre. D'ailleurs, Kundera est en Pléiade en deux volumes, œuvre au singulier, œuvre en deux volumes. Est-ce que vous pensez, et d'ailleurs, est-ce que vous les avez lus, traduits, est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, en dépit de la volonté de Kundera, ils seront traduits?
Mais non, alors là, ça serait pour le coup le testament trahi.
Ça serait le testament trahi.
Non. Alors là, j'en ai beaucoup parlé avec le conservateur de la bibliothèque de Brno, qui détient maintenant toutes les archives Kundera, et les choses sont très claires. L'écrivain a tous les droits, il a parfaitement le droit de savoir ce qui appartient à l'œuvre, à l'histoire de l'œuvre, mais sa préhistoire, il a parfaitement le droit de l'écarter. Et elle n'est pas écartée, détruite. Elle est à Brno. On peut aller voir les poèmes, les lire, les faire traduire. Donc, tout est là. Rien n'est caché. Simplement, il a parfaitement le droit de considérer que c'était c'était une sorte de brouillon, quoi.
Une sorte de brouillon, oui.
Mais même si dans les Testaments trahis, il évoque ce paradoxe du cas de Kafka et Max Brod, qui fait que c'est une certaine trahison, d'une certaine façon, de Max Brod, qui fait que nous aimons et que nous connaissons Kafka.
Oui, mais d'un autre côté, il trouve une raison d'être au choix de Max Brod, et je pense que ce serait vraiment marcher sur sa volonté aujourd'hui que d'introduire les poèmes de Kundera dans l'œuvre de Kundera. D'accord. Même si d'ailleurs certains d'entre eux, d'après ce que me dit son épouse, sont de très beaux poèmes.
Ou les pièces de théâtre aussi, parce qu'il a été dramaturge.
Oui. Mais il y en a une d'ailleurs qu'il assume complètement, qui est Jacques et son maître. Qui est joué assez souvent. Ouais. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que ça ressemble tout à fait à Kundera, je crois que vous le dites dans votre livre. On lui demande de faire, sous un faux nom, parce que c'est l'époque de la normalisation, une adaptation de Dostoïevski, d'Idiot, et il déteste le sentimentalisme de ce livre. On n'est pas obligé de le prendre au mot. Il y a d'autres exemples de sentimentalisme que l'Idiot. Et l'Idiot ne se réduit pas à ça. Mais en tout cas, il ne se reconnaît pas du tout dans ce livre de Dostoïevski, et il remplace Dostoïevski par Diderot, par Jacques et son maître. Et l'une des raisons de sa venue en France, c'est aussi Diderot. C'est le 18e siècle, c'est Rabelais et Diderot qui ont fait de lui un Français, qui l'ont fait choisir ce qu'il a appelé, là aussi, contrairement au kitsch qui entoure cette notion, un exil libérateur. Pour lui, l'exil a été perçu comme une forme de libération, le plaisir d'être ailleurs, ce qui d'ailleurs ne lui a pas été forcément pardonné par les Tchèques qui sont restés là. Mais en tout cas, voilà, c'est Diderot contre Dostoïevski. Et puis une autre chose qui me paraît très belle dans son art romanesque, il dit « Attention, ne pas politiser mes livres ». Et d'un autre côté, ces livres sont ancrés dans une réalité terrible, celle justement de la chape de plomb du communisme. Mais vous voulez dire quelque chose?
Vous nous demandiez à l'un et à l'autre ce qui nous avait marqué et ce qui nous marque encore en lisant Kundera. Évidemment, au moment, je vois qu'un Occident kidnappé est ouvert sur votre table. C'est cet essai absolument incroyable et visionnaire qui raconte l'annexion d'une grande part de l'Europe centrale par la civilisation russe et comment elle a privé la culture occidentale de son centre de gravité vital. Là, je le cite. Et c'est aussi un gros apport de Kundera de nous montrer ce que l'on doit, d'un point de vue romanesque, à Kafka, à Musil, à Gombrowicz, d'un point de vue musical, à Schoenberg, à Bartok, etc. Mais ça résonne de façon terrible avec l'actualité aujourd'hui, et l'Ukraine, et les craintes de la Moldavie, etc. etc. Donc, pour ça aussi, je trouvais que c'était intéressant de dire aux jeunes générations, lisez-le. Parce que lui est passé par là.
Et en effet, et notamment lire un Occident kidnappé, je dois à la vérité de dire que le président Macron a été très bien inspiré dans son discours à Bratislava de citer Kundera, de citer cette première phrase d'un Occident kidnappé, le directeur de l'agence de presse de Budapest, au moment où les chars font leur entrée, envoie un telex désespéré, nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe, c'est-à-dire affirmation simultanée de l'identité nationale et de l'identité européenne, ce qui était incompréhensible pour les Européens qui avaient construit l'Europe justement pour en finir avec les démons de l'identité nationale. Et le président a dit vous avez été kidnappé une fois, vous ne serez pas kidnappé une deuxième fois. Ce qui, en effet, avait une certaine force. Et vous avez raison, il y a une actualité extraordinaire à ce texte. Mais un dernier mot sur l'art romanesque, parce que dans le livre du Rire et de l'Oubli, donc il y a ce livre commence par une scène. En février 48, le dirigeant communiste Clément Gottwald se met au balcon sur la place de la vieille ville. C'est un moment fatidique comme il y a un ou deux par millénaire. La Tchécoslovaquie va basculer. Il est nu-tête et Clémentis, plein de sollicitude, enlève sa toque et de fortune et la pose sur la tête de Gottwald. Sauf qu'ensuite, Clémentis disparaît de la photo quelques années plus tard, donc il reste la toque, mais il n'est plus là. Et le personnage central dit, Mirek, la lutte de l'homme contre le pouvoir, c'est la lutte de la mémoire contre l'oubli. Donc voilà, on retrouve là le thème de l'oubli. Sauf que, il fait la même chose, Mirek. C'est ça qui est absolument génial. Il a une femme...
Il peut faire disparaître des éléments de sa vie privée, oui.
Zdena est une femme qu'il a aimée, sauf qu'elle était laide. Elle avait un grand nez. Et il était amoureux d'elle parce qu'il avait peur d'aborder les femmes belles. Et il veut gommer cet épisode de sa vie, le désir d'étendre le bras loin dans son passé et d'y frapper le poing. Voilà le désir qui l'anime, le désir de lacérer au couteau le tableau de sa jeunesse. Donc, il fait dans son registre ce qu'il subit par ailleurs. Donc, c'est toujours la dimension existentielle, voire anthropologique, des questions politiques qui habitent Kundera, et c'est au nom de cette profondeur, en quelque sorte, qu'il refuse une vision exclusivement politique de son œuvre, Benoît Duteurtre.
Et souvent, d'ailleurs, dans les tableaux politiques qu'on retrouve dans ses romans, sont des petits détails anecdotiques de la vie des personnages, des choses parfois assez drôles qui l'intéressent aussi. Hein. C'est pas une réflexion sur la pensée ou l'idéologie. C'est toujours très très concret, comme le passage que vous venez d'évoquer. Mais je crois que pour ce qui est de la politique et de Kundera, évidemment, il y a un grand malentendu qui a été créé, qui explique peut-être aussi qu'il insiste tellement sur cette défiance. C'est au fond, que quand son premier roman, La Plaisanterie, est paru en France et ailleurs d'ailleurs, il s'est vu tout de suite par une partie des commentateurs affublé de l'étiquette de dissident. Et ça, c'est quelque chose qui lui a évidemment toujours fait horreur, parce que ses romans sont des jeux, des fantaisies, des œuvres d'art. Et tout d'un coup, on voulait en faire l'espèce de dénonciateur, d'une certaine façon, du système totalitaire communiste. Alors, évidemment, il a toujours, par la suite, expliqué qu'il n'était pas un dissident, mais un artiste, un écrivain.
Un romancier.
Et un romancier. Et alors, c'est d'autant plus frappant, d'ailleurs, dans l'histoire de la plaisanterie, que effectivement, dans ce roman génial à l'époque, on a voulu voir effectivement parfois quelque chose qui parlait de la délation, de la transparence, de l'interdiction de l'humour qui serait propre au système communiste totalitaire. Or, si on relit la plaisanterie aujourd'hui, on peut avoir l'impression que cette délation, cette transmise sur la place publique des choses privées, ce refus de l'humour, c'est exactement ce qui caractérise le monde qui est en train de venir. Donc, ce n'est pas le monde communiste que dénonçait Kundera, c'est qu'il avait, à travers son expérience en République tchèque, une espèce de vision d'un devenir beaucoup plus vaste du monde oriental et occidental. Et ça, oui, c'est quand même quelque chose de très très important, il me semble.
Oui, alors, d'un autre côté, vous mettez l'accent, François Ville, dans votre livre, sur aussi ce qu'étaient un peu les engagements de Milan Kundera. Et vous citez, et j'étais très étonné, un article qu'il va publier dans la revue tchèque Listy, après l'écrasement du printemps de Prague. Et il dit croire encore à un socialisme à visage humain, et il reproche à Václav Havel de n'avoir jamais accepté l'idéal communiste. Kundera-Havel, demandez-vous, et Milan vous répond, un différent sur le sens de l'histoire. Ça, c'est tout à fait surprenant. Donc, il avait quand même quelques croyances, Milan Kundera. Une forme d'engagement.
Oui, et une croyance extrêmement fondamentale et viscérale qu'il a toujours gardée dans la culture et dans la force de transformation des individus par la culture. Je crois que pour bien comprendre, et je l'ai découvert moi-même, il me parlait toujours des années 60, du printemps de Prague. Et j'avais pas bien compris à quel point ce bouillonnement créatif, cette espèce d'effervescence, alors il y avait la nouvelle vague du cinéma, il y avait cette espèce de liberté qui s'installait et qui faisait de la culture pas le privilège d'une élite, mais une sorte de ciment entre les différentes populations. En fait, c'était culture contre dictature. Il croyait à ça, il croyait qu'un troisième chemin allait pouvoir s'ouvrir entre le communisme et le marché pur, si vous voulez, qui passerait par là. Et ça, cet âge d'or de la culture tchèque qu'il a gardé en tête et dont il ne s'est jamais, enfin c'est mon hypothèse, remis vraiment. Tout à coup, il arrive en Occident où, en effet, il pense retrouver la patrie de Rabelais et de Diderot. Et puis, le divertissement gagne, la culture recule et cède du terrain. Et ça, c'est resté une blessure ouverte. Et ça, ce qu'est devenu la culture en Occident, je crois que ça n'a fait que mettre du sel sur ses plaies.
Oui, alors, d'ailleurs, dans une rencontre, Milan Kundera reprend l'essentiel de la préface qu'il avait consacrée au livre de Joseph Skvoretsky, Miracle en Bohème, et notamment l'opposition qu'il fait entre mai 68 et le mai de Prague. Et il dit ceci: le mai de Paris était une contestation enjouée de la culture européenne, vue comme ennuyeuse, officielle, sclérosée. Le printemps de Prague était l'exaltation de cette même culture, pendant longtemps étouffée sous l'idiotie idéologique. La défense autant du christianisme que de l'incroyance libertine, et bien sûr de l'art moderne. Je dis bien moderne, non pas postmoderne. Mais il va plus loin dans ce texte. Il parle aussi de ce qu'a été le printemps de Prague, du système qui est né et qui ne pouvait pas durer. Mais c'était, dit-il, sans précédent, une économie nationalisée à 100%, une agriculture aux mains des coopératives, pas de gens trop riches, pas de gens trop pauvres, les écoles et la médecine gratuites, mais aussi la fin du pouvoir de la police secrète, la fin des persécutions politiques, la liberté d'écrire sans censure, et partant, l'épanouissement de la littérature, de l'art, de la pensée, des revues. Il n'y avait pas beaucoup de perspectives d'avenir, mais il a beaucoup reproché aux dissidents et à Vel d'avoir mis entre parenthèses le printemps de Prague et d'avoir dit que voilà, la démocratie commençait avec l'effondrement du régime sans tenir compte de ce moment à ses yeux béni.
C'était d'ailleurs bien ce que vous venez de lire, quand même presque une définition du socialisme dans une vision peut-être idéalisée, mais voilà. C'est bien ça, par opposition au capitalisme qui sera celui de l'Europe unie, où il se reconnaîtra pas forcément aussi bien. Et je voudrais simplement rappeler qu'un texte de quelqu'un qui était resté un des amis les plus proches de Milan Kundera à Prague, que vous avez publié il y a quelques années, Alain Finkielkraut, s'appelle Karel Kozik,
oui.
Qui est un texte sur le printemps de Prague.
Bien sûr, que j'ai publié dans Le Messager européen. Oui.
Qui est un texte qui montre vraiment le printemps de Prague comme le point de départ possible d'une nouvelle utopie politique. Et le même Kozik, proche ami de Kundera, ayant été d'ailleurs plus ou moins persécuté par le pouvoir communiste et ayant ensuite été mis à pied par le pouvoir libéral qui s'est installé à Prague après 89, étant finalement toujours comme une espèce de marginal dans son rêve d'un socialisme humain, ouvert et libre, qui est un peu, je crois, aussi celui de Milan.
Ah oui, Karel Kozik, dans ce texte, dit que il y a une faute initiale dans le paradigme moderne.
Voilà.
C'est on veut la liberté et on veut en même temps la maîtrise. Et à force de confondre la liberté et la maîtrise, l'homme s'est trouvé dans la dépendance de son système de besoins.
Voilà.
Et il dit, dans mon souvenir, que le printemps de Prague, c'était une volonté de sortir du paradigme moderne voilà. dans ses deux versions, voilà. la version capitaliste et la version communiste. Voilà. Donc il donne une sorte de réalité philosophique au printemps de Prague, effectivement, que dont la Tchéquie actuelle ne veut absolument pas tenir compte. Mais maintenant, je voudrais vous demander, imaginons que certains auditeurs n'aient pas encore eu la joie de découvrir Kundera. Alors accompagnez-les. Par quel livre devraient-ils commencer ? Comment lire Milan Kundera, voilà, quand on est encore vierge. Florence Noiville.
On a le droit de citer deux livres, un essai et un roman.
Cinq, si vous voulez.
Cinq, si vous voulez. Eh bien, c'est très banal, mon choix. Moi, j'ai parlé de l'éblouissement que j'avais eu en lisant L'Art du roman. Je pense que cet éblouissement peut tout à fait... se reproduire chez quelqu'un de qui est en, je sais pas, en terminale ou en prépa et qui
voilà. Donc il commencerait par l'essai.
Non, pas forcément.
Mais c'est merveilleux de dire ça.
Moi, je commence par l'essai parce que moi, j'avais commencé par l'essai.
Mais c'est très bien.
Et puis après, j'ai découvert
le premier livre que vous avez lu de Kundera, c'est L'Art du roman.
Oui, oui. Mais je pense que c'était une lecture imposée en classe préparatoire.
Ah oui,
et tout à coup, c'était en effet extrêmement allégeant parce que c'était en rupture nette avec tous les essais sur la littérature qu'on pouvait lire à l'époque.
Ah oui, je ne tiens à rien sinon à l'héritage
des Criées de Cervantes. Cervantes.
Oui, c'est ça. Et puis, les deux fondateurs des temps modernes, Descartes et Cervantes. Okay. Et effectivement, Descartes, maître et possesseur de la nature, Cervantes, la relativité des choses humaines. Mmh. Voilà, et c'est vrai, c'est une vision extraordinaire. Et quoi d'autre
avec aussi une part importante accordée au hasard, aux accidents de la vie. Il dit la vie est un complot de hasard. Et ça me plaisait bien. Et puis le deuxième, ça serait justement l'insoutenable légèreté de l'être. Parce qu'on voit là, effectivement, ce qu'il appelle l'archi-roman, c'est-à-dire une composition qui s'autorise à mêler des tas de genres, des petits bouts d'essais, des petits bouts d'anecdotes, des petits bouts de folklore, des petits bouts de musique. Et je me suis dit, ah, mais alors on peut écrire comme ça.
Alors, et vous ?
Alors, j'aurais pu citer ce que vient de citer Florence Noiville, mais je vais en choisir quelques autres. D'abord, pour ce qui est du grand roman, comme vous dites, de la grande forme romanesque qui a occupé Kundera pendant une quinzaine d'années avec le livre du rire et de l'oubli, qui est un livre merveilleux, vous avez cité L'insoutenable légèreté. Je veux dire que L'immortalité, que le dernier de la série, est un livre assez extraordinaire qui, partant de la vie très contemporaine, nous conduit vers Goethe, Beethoven, etc. C'est son dernier roman tchèque. Mais je citerai aussi un des romans français qui, d'ailleurs, je dis ça un peu avec mélancolie, qui rejoint d'une certaine façon ce que nous vivons avec Milan depuis quelques années, c'est-à-dire ce livre qui s'appelle L'ignorance, qui est le troisième de ces romans français, qui est un livre sur... Voilà, la perte de la mémoire, mais aussi le fait que quand on retrouve des vieux amis, on n'a plus rien à se dire, nos mondes se sont séparés, tout se dissout peu à peu. C'est l'histoire justement d'un voyage en République tchèque, d'un retour en République tchèque.
C'est l'histoire d'un retour.
Et on retrouve les personnages de sa jeunesse, et de tout ça, finalement, il ne reste qu'une espèce de comédie un peu triste des apparences. Et c'est un livre très, très beau qui montre, voilà, parce que parfois on dénigre un tout petit peu les romans dits français de Kundera, et je trouve que là, on est vraiment au cœur de son art, aussi bien d'écriture que de composition. Et puis, je dirais, pour finir dans les essais, justement, c'est Testament trahi, puisque vous avez cité L'art du roman, une chose qui, moi, me fascine dans les essais de Kundera, c'est que il parle d'idées, mais il joue avec les idées exactement comme avec les personnages d'un roman.
Exactement.
C'est pour ça que tout le monde peut lire ces essais. Mmh. C'est vraiment une espèce de fantaisie où les concepts apparaissent, reviennent, se rejoignent exactement comme des personnages dans une pièce de théâtre, etc. Sauf que là, ce sont des idées abstraites.
Et
il fait ça avec une
plus
maîtrise extraordinaire. Voilà.
Oui, alors c'est vraiment... J'ai adoré L'ignorance.
Ouais, ouais.
Et je dois dire que, bien sûr, je pourrais citer tous les livres de Kundera, mais j'avais été un peu moins convaincu par les deux romans précédents.
La
les deux
et
courts romans, qui sont des très beaux livres, hein, je ne veux pas du tout. Mais voilà, je me disais, le très grand Kundera est peut-être derrière nous, avec l'immortalité dont vous avez si bien parlé.
Non, parce que le grand Kundera, il est aussi dans, pardon, je vous interromps encore, mais dans La Fête de l'insignifiance. Moi, je trouve que c'est une sorte de point d'orgue magnifique.
Ah oui,
tout dernier.
Comme une espèce d'œuvre absolument épurée où on retrouve tout.
On retrouve tout, c'est vrai. Mais moi, c'était la surprise de L'ignorance. D'ailleurs, j'ai eu un peu la même impression avec Philippe Roth en lisant Némésis.
Ah ouais.
Le dernier livre de Philippe Roth est un de ses livres les plus beaux. Et là, tout d'un coup, L'ignorance, c'est l'Odyssée. Mais c'est l'Odyssée d'aujourd'hui, c'est revient à Ithaque et Ithaque n'est plus Ithaque.
Roth qui était très ami avec Kundera.
Oui, je sais. Une amitié qui a connu des moments un peu difficiles. Mmh. D'ailleurs, c'est très intéressant. Pourquoi il y a eu ces moments difficiles? Parce que dans Parlons Travail, Roth interviewe un contemporain de Kundera, Ivan Klima. Et Klima, il lui dit, mais pourquoi il y a cette obsession, cette fixation de la dissidence sur et contre Kundera. Klima répond, et Kundera s'est senti trahi par Roth. Il dit, il fallait pas donner la parole à ça. Ensuite, ils se sont réconciliés, mais ça a été une rupture très, très douloureuse pour l'un et pour l'autre. Mais parce que Kundera était à vif, souffrait énormément de la campagne menée contre lui et qui d'ailleurs peut-être lui a coûté le Nobel.
C'est vrai que j'ai essayé aussi de montrer un homme dont la sensibilité est toujours à fleur de peau. On parle de grande intelligence, de culture, etc. Mais cette sensibilité-là et ce sens de la mélancolie, c'est la litoste, fameuse litoste qui n'a pas d'équivalent probablement en français. Et je trouve que tout ça se mélange magnifiquement. On a dit allègre, etc., drôle, mais sur fond d'une immense mélancolie.
Voilà, et bien ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Florence Noiville. Votre livre s'intitule Milan Kundera, écrire quelle drôle d'idée. Il est publié aux éditions Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Yvan Charby. L'émission de la semaine prochaine aura pour titre Le pouvoir judiciaire en France. Mes invités seront Denis Salas et Hervé Lehmann. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.